Regard sur la philosophie. Une chronique de Damien Leguet sur Canal Académie.
Philippe Meret semble maintenant à la mode. Il faut dire que Philippe Meret est mort en 2005. De son vivant, il a été considéré toujours comme un auteur soit sulfureux, soit confidentiel. Sulfureux pour avoir été épinglé, en particulier au moment de la querelle sur les nouveaux réactionnaires. Il a été rangé dans cette catégorie définitive qui semblait le mettre à tout jamais loin de la connaissance des uns et des autres. Maintenant, depuis quelques années, il a quitté le cercle un peu restreint des connaisseurs, de ceux qui l'appréciaient à la fois pour son style et pour la perspicacité de ses idées, et semble maintenant être devenu un auteur, si ce n'est à la mode, du moins connu ou reconnu par beaucoup de monde. Au point que Lucchini, dans son dernier spectacle, lui consacre tout son spectacle et ne cesse de lire des textes de lui et de dire tout le bien qu'il pense de cet écrivain hors du commun, particulier, symptomatique, qui mérite que nous fassions ce jour un petit éclairage sur lui. Philippe Meret, donc, était, car il faut en parler au passé, était romancier, mais surtout, il a commencé à tenir la chronique de notre modernité dans différents livres, dont en particulier « Après l'histoire 1 » et « Après l'histoire 2 », publiés aux Belles Lettres en 1999 et en 2000, qui n'était que la reprise des chroniques qu'il avait tenues dans la revue des Deux Mondes l'année juste avant, puis dans « Exorcisme spirituel 1, 2 et 3 ». Et donc, tous ces livres-là, qui viennent de reparaître maintenant en un seul volume intitulé « Essais », toujours aux Belles Lettres, tous ces livres-là donnent à Philippe Meret la pleine mesure de son talent. Comment pouvons-nous le définir ? Il fut avant tout un homme de style, d'écriture, un style relativement classique, mais mêlé à une forme de fureur pamphlétaire, un coup d'œil particulier sur le monde et sur nos contemporains qui le font reconnaître entre tous. Il assignait à la littérature, à la suite de ce que Balzac en disait, il assignait donc à la littérature la fonction d'indiquer les désastres produits par les changements de mœurs. Et Dieu sait que notre époque ne manque pas de désastres qui méritent d'être pointés du doigt, d'être mis en évidence par le génie particulier d'un écrivain, par le coup d'œil spécifique d'un écrivain qui est susceptible de révéler, de sortir de l'anonymat tel ou tel fait pour leur donner toute leur valeur particulière. Certains ont considéré, et en particulier autour de cette rubrique, mauvaise rubrique, des nouveaux réactionnaires, certains ont considéré donc qu'il était contre la modernité. Il n'en est rien, il s'en prend à la modernité dans ce qu'elle a de caricatural, il s'en prend au fantôme de la modernité, à ce retournement de la modernité contre elle-même qui l'amène à peindre, comme il le dit lui-même, les ruines de l'époque. Et donc, il se met en porte-à-faux avec l'époque pour mieux la dénoncer, ou plutôt pour mieux en dénoncer certains aspects. On peut dire que, grâce à lui, avec lui, le style pense, la littérature pense et donne à penser. Si vous voulez lire Philippe Meret, vous pouvez commencer par le premier de ses livres, écrit en 1984, le premier de ses essais, qui s'appelle « Le XXe siècle au travers des âges », gros livre, qui part du principe que le XIXe siècle a commencé le 7 avril 1786, c'est-à-dire au moment où il y a eu un immense déménagement pour des raisons d'hygiène des corps et des cadavres qui étaient empilés là depuis des siècles au cimetière des Saints-Innocents. Et donc ce déménagement de cimetière inaugure, nous dit Philippe Meret, ce rapport particulier que le XIXe siècle aura avec le progrès et la mort. Le progrès parce que c'est pour des raisons liées au progrès, à l'hygiénisme, que ces cadavres vont être déplacés en dehors de la ville. Et en même temps, ce déplacement de la mort est, dit-il, fortement symptomatique, d'autant plus que le XIXe siècle verra se développer une idéologie du progrès qui n'empêchera pas certains, Victor Hugo en particulier, de faire tourner les tables en même temps, donc d'invoquer des esprits qui se situeraient ou qui se situent ailleurs. Ce rapport entre progrès et mort qui traverse tout le XIXe siècle s'achève avec la guerre de 1914 et donc avec le cumul du progrès de l'armement, ce progrès de la technique au service de ce grand moment de mort collective qui mettra un terme au XIXe siècle et inaugurera un siècle nouveau. Suite à ce livre-là, suite à cette manière particulière de voir un siècle, différents thèmes que je voudrais maintenant aborder avec vous vont traverser l'œuvre de Philippe Meret et les livres de Philippe Meret. Premièrement, il s'en prend à une forme de positivité forcenée du monde du bien. Comme si le monde dans lequel nous étions était nécessairement un monde qui allait vers un mieux, vers un bien, et que beaucoup de ceux qui célèbrent ce monde, qui célèbrent l'époque, poussent à ce que les uns et les autres rejoignent ce mouvement de l'histoire vers un monde encore meilleur, toujours meilleur, de plus en plus meilleur. Ce qui amène Philippe Meret à inaugurer ou à constater ou à penser que nous avons atteint la fin de l'histoire, donc l'histoire conçue comme une contrainte, comme un ordre symbolique auquel nous aurions mis fin, eu égard à ce qu'il appelle, thème qu'il a fortement développé avec l'idée d'homo festivus, avec donc une festivisation à outrance. Il a vu, il a constaté, il a pointé du doigt, il a exécré d'une certaine façon toutes ces fêtes supplémentaires qui se sont ajoutées progressivement au calendrier, et fêtes qu'il a bien mis en évidence comme étant d'une nature très différente de celle que nous connaissions par le passé. Par le passé, les fêtes étaient liées à un événement, à un moment, à quelque chose qu'il y avait à célébrer. Et lui, donc, constate que l'homo festivus, l'homme festif, celui qui semble avoir le dernier mot de l'époque, cet homme-là, de plus en plus, est conduit à célébrer rien d'autre que la fête elle-même, comme si la fête était devenue tautologique et qu'elle permettait aux individus de se célébrer eux-mêmes ou de célébrer le rien à l'intérieur de la fête, dont la fête serait, d'une certaine façon, le noyau dur. Et donc, cela l'a conduit à faire un procès, si l'on veut, comme tout ce qui s'oppose au constat de cette festivisation à outrance, au constat de ceux qui poussent de plus en plus à célébrer l'époque pour elle-même, sans tenir compte des remarques, des reproches, des critiques, des pentimento que les uns et les autres sont susceptibles de faire. Et donc, il dénonce aussi, dans ses livres, ce qu'il appelle une police de la pensée, et il pense en particulier à Lindenberg, auteur donc de ce pamphlet sur les nouveaux réactionnaires dans lequel Philippe Meret s'est retrouvé embarqué. Il s'en prend donc à cette police de la pensée, il s'en prend à ce qu'il appelle les mutins de Panurge, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans une rébellion qu'il considère comme factice et fausse, tous ceux qui auto-célèbrent leur propre opposition à on ne sait quoi, et célébrant cette opposition à on ne sait quoi, réussissent à obtenir des places et des positions importantes dans le système médiatique. Il dénonce aussi, par la même occasion, cette grande mutation, ce grand changement d'une pensée postmoderne qui laisse à penser que le réel, d'une certaine façon, et le bien ont fusionné. Que tout ce qui est bien est réel, que tout ce qui est festif est encore plus humain que l'humain, que tout ce qui est de l'ordre de la célébration de l'humanité conquérante va dans le bon sens. Et donc, lui considère, lui constate que nous avons laissé de côté, d'une certaine manière, l'ancien réel, le monde de la contradiction, le monde du conflit, le monde de la différenciation, que cette différenciation soit politique, sociale ou sexuelle, au profit de quoi ? Au profit d'une forme de kitsch généralisé, de festivisation généralisée, de tout ce qui entraîne l'homme à abolir toutes les différences, comme si l'abolition de toutes les différences permettait à l'individu d'être plus heureux qu'il ne l'est ou qu'il ne l'était jusqu'à présent. Et donc, cette montée en puissance de l'abolition des différences, de cette indifférenciation à tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous divise, semble être, pour Philippe Meret, le nouvel idéal qui s'est progressivement imposé et qui est poussé, mis en avant par bon nombre d'intellectuels et ou de penseurs modernes. Et donc, à contrario de cela, connaissant l'épaisseur de la patte humaine pour être un grand lecteur des écrivains, lui pense qu'il faut être attaché à, disons, le péché originel, à l'idée qu'effectivement il y a des fautes qui, d'une façon ou d'une autre, nous séparent. Lui pense que, par exemple, cet attachement qui est le sien au catholicisme culturel est important parce que pour lui, la Trinité, par exemple, est la naissance et la condition nécessaire et suffisante pour donner matière à ce que le roman puisse se déployer. Et donc, il s'en prend de livre en livre à ce couple qu'il dénonce entre la marchandisation de plus en plus forte et un mouvement d'émancipation individuelle qui conduit à cette désaliénation, à ce souci de désaliénation. Se désaliéner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il importe de se couper de toutes ces différences, d'aller de plus en plus vers ce qui est interchangeable, quitter toutes ces anciennes supposées pesanteurs pour aller vers une affirmation de plus en plus forte de soi et aller vers une libération de plus en plus forte de soi. Et donc, lui constate que ces deux mouvements-là, marchandisation d'un côté, poussée par le marketing et poussée par l'idéologie marchande d'une part, et deuxièmement, ce mouvement de libération, d'autolibération, de désaliénation, tous les deux, ces deux mouvements-là, même si ces deux mouvements-là n'en ont pas conscience, vont dans le même sens, c'est-à-dire dans l'affirmation d'un individu autonome, libre, seul et capable d'être récupéré plus facilement par le mouvement de marchandisation qui est en route. Et donc, il voit comme une alliance objective entre, d'une part, Catherine Millet, par exemple, qui, elle, prône, d'une certaine façon, grâce ou par le mouvement de libération sexuelle, une forme de communisme des corps, et d'autre part, le mouvement de marchandisation, donc disons par exemple Louis Vuitton, qui pousse les individus à se reconnaître séparés les uns des autres, non pas par leur mérite propre, mais par l'identification à une marque. Et donc ce mouvement-là que lui dénonce semble être combattu par ce qu'il appelle le politiquement correct, par tous ceux qui, de plus en plus, remplacent la réalité par des mots, des euphémismes, par des façons de parler des choses qui dissimulent de plus en plus ces mêmes choses au regard de ceux qui les vivent et de ceux qui les observent. Et donc, lui prône dans ses livres et dans l'acuité de son regard, lui prône une vigilance du regard, une acuité des mots, un souci de nomination, un souci de pointer ces petits détails de la réalité qui sont ô combien importants et qui permettent de mettre en évidence l'époque dans laquelle nous sommes et qui n'apparaît pas de prime abord à ceux-là même qui la vivent. Et donc, lui qui est avant tout un écrivain, lui essaye de faire justement ce travail que le politiquement correct ne permet pas, que les défenseurs de l'homo festivus ne permettent pas de faire. Lui, justement, essaye de regarder avec acuité, en les nommant, la réalité telle qu'elle est et qui nous pousse de plus en plus à une indifférenciation qui, au lieu de nous rendre plus libres, au contraire, semble nous rendre plus aliénés à la marchandisation.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Pour terminer, je ne peux que recommander la lecture de Philippe Meret, une lecture authentique, soucieuse de l'écriture, du plaisir qui a été le sien d'écrire, mais aussi de ce que dit Philippe Meret, parce que Philippe Meret n'est pas seulement un amuseur ou quelqu'un qui aurait la chance et l'avantage d'avoir bien écrit et qu'on pourrait regarder seulement comme un styliste. Certes, il est styliste, certes, il est écrivain, certes, il a parfaitement décrit de façon ciselée les travers de l'époque, mais justement, il faut regarder aussi les dix travers de l'époque qu'il dénonce et pour mieux observer la réalité qui est la nôtre. Et maintenant, pour terminer, je vais me permettre de lire deux textes de Philippe Meret pour que vous soyez plus au fait de ce style si particulier qui est le sien et qui fait de nos jours la délectation de Fabrice Luchini qui reprend ces textes-là. Premier texte donc sur la télé-réalité telle qu'il la dénonce et en particulier donc texte de 2001 sur Love Story. Pour qu'il arrive quelque chose, il faut avoir des désirs et des manques. Les personnages du loft ne sont pas en manque. Ce sont les suicidés de la satiété. À côté de Love Story, ce qui advient dans une poubelle, c'est du Shakespeare, c'est du Balzac. Les poubelles ont une grandeur, une noblesse et une noirceur héritée des temps héroïques. C'est d'ailleurs dans cette mesure qu'on peut parler des poubelles de l'histoire. C'est plein de choses intéressantes, les poubelles. C'est respectable, les poubelles de l'histoire, puisqu'on y a mis tout ce qui ne nous ressemble pas. Dans une poubelle, on peut crocheter des tas de trucs plus ou moins pathétiques ou avariés. On peut même par miracle y dénicher des trésors largués par des mains négligentes. Et cela non plus, dans le loft, ne peut pas arriver. Et c'est ce qui fascine le téléspectateur. Enfin, des images qui n'essayent pas de lui faire croire qu'elles sont autre chose que le monde mis en boucle de sa propre existence. Enfin, les individus qui se lavent les dents et qui se lavent les dents rien d'autre. Enfin, des filles ou des garçons qui traversent une pièce et rien de plus, qui se recroquevillent sous leur couette et qui ne font que se recroqueviller sous leur couette, qui serrent un coussin contre leur cœur et qui ne font que serrer un coussin contre leur cœur, qui répètent à tout bout le champ, entre guillemets, « c'est clair » ou « tu vois ce que je veux dire » et qui ne veulent strictement rien dire d'autre que, entre guillemets, « c'est clair » ou « tu vois ce que je veux dire ». Les héros de ce vaudeville immobile sont de grands professionnels du littéral léthargique. Tous ces vrais gens, si sympathiques, qui se tortillent sur leur canapé Ikea en attendant d'être éjectés ou de gagner la maison à 3 millions de francs, ne sont pas pour la transparence, ils sont la transparence. Les anti-lofts mettent ridiculement à côté de la plaque lorsqu'ils luttent pour la dignité des lofteurs ou crient que l'être humain n'est pas une marchandise. Qui prouve qu'il y a encore des êtres humains à l'ancienne parmi les Pokémon multicolores de Love Story? Chez tous ces loft-êtres, ces loft-garçons et ces loft-filles végétant dans quelque chose qui ressemble au temps primitif et cyclique des vieilles civilisations d'avant la naissance de l'histoire et des poubelles, mais avec la vidéosurveillance en plus. La télévision depuis 50 ans n'aura rien été d'autre que ce qui remplaçait la vie au fur et à mesure que celle-ci progressivement se retirait. La télévision n'est pleine que du vide que la vie, en s'en allant, a laissé derrière elle. Tout l'effort épuisant de ces animateurs innombrables et successifs a consisté à faire croire qu'elle était encore remplie de vivants, alors qu'elle n'est agitée que par ce qui leur a succédé et qui est personne. Love Story, en France, est la première émission à ne pas essayer de mentir à ce sujet. Les images qu'elle nous offre ne viennent plus à la place de nos vies misérables, d'où la sidération. C'est dans les programmes dits culturels que l'on fait encore semblant qu'il y a de la vie et de l'espoir, alors qu'on n'y agite que des ersatz d'épluchures consolatrices. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si Love Story prend le pouvoir à peu près au même moment où Bernard Pivot rend son tablier. Cette concomitance a la valeur d'une fin de cure psychanalytique, c'est-à-dire d'une révélation. Avec Love Story, la télévision, enfin, ne cache plus rien, du rien qu'elle met froidement en scène. La vraie vie est nulle part ailleurs, et on a tout essayé. Ce que la télévision montre, c'est le processus de la grande régression anthropologique à laquelle nous sommes désormais en proie. Second texte, donc du confort intellectuel aux intellectuels de confort, publié en 2001 et extrait de Exorcisme spirituel 3. Et il s'agit donc d'une dénonciation de ces intellectuels de confort. Maître la réponse avant les questions jusqu'à ne plus penser qu'il pourrait y avoir des questions, c'est gommer le réel qui est l'unique source de ces questions. L'onirisme des bonnes causes et les grands sentiments est d'autant plus souhaitable qu'il aide à ne jamais rien savoir de l'univers concret, tandis que celui-ci se transforme. Et plus il se transforme, moins cet univers a envie d'être interrogé. Il a au contraire besoin, dans le temps où il développe ses malfaisances, que s'accumulent les réponses préfabriquées à des questions qui ne se posent plus ou qui sont désormais largement à côté de la plaque. C'est à cela que servent ceux que l'on peut maintenant, et à bon droit, appeler les intellectuels de confort. Mais ils travaillent d'abord au confort intellectuel d'un temps qui ne veut surtout pas être déchiffré, parce que ce déchiffrement serait aussi le début de sa critique. L'intellectuel de confort n'a d'autre issue que l'acquiescement sans condition, plus ou moins enveloppé d'impertinence. Le semblant de pouvoir sacerdotal qu'on lui laisse est à ce prix. Le reste a disparu. Les anciens chemins de la liberté sont devenus des autoroutes de l'information. L'exigence de justice s'est transformée en jubilation procédurière. Les communautés savamment détruites se recréent dans les réseaux parodiques de l'espace virtuel et dans les chaudrons communautaristes des nouvelles persécutions. De la démocratie, il ne restera bientôt plus que sa numérisation. Les sexes se séparent à coups de lois discriminantes. La différence des sexes elle-même est l'objet d'une phobie essentielle que sont chargées de masquer d'innombrables accusations de phobie particulière. Il ne subsiste plus d'énergie que dans l'expansion d'une machinerie de plaintes, de harcèlement et de prétendues avancées juridiques dont l'accroissement, vécu comme une immense compétition gratifiante, se calque sur celui de la nouvelle économie et de ses effarantes fuites en avant. L'homme n'est même plus déshumanisé comme au temps de sa réconfortante aliénation. Il est en train de se débarrasser avec joie de lui-même, c'est-à-dire de ses erreurs et de ses tâtonnements par lesquels il avait fait l'histoire. L'univers s'embrase d'une permanente excitation victimaire qui se substitue aux exaltations idéologiques de jadis. Quant à se mêler de ce qui ne vous regarde pas, comme se flattaient de le faire les intellectuels, il y a maintenant des associations pour cela et des groupes de pression qui sont tout bonnement des comités de sévices sociétales. Et tout ce désastre en marche vers l'avenir radieux n'est camouflé que par le langage que l'on emploie pour faire croire qu'il s'agit du meilleur des mondes.